Le gouvernement, parce que c'est pas uniquement Chavez, a clairement dit que quel que soit le résultat de ce référendum, il accepterait ce résultat. Hein, c'est-à-dire que si le président Hugo Chavez perd le référendum le 15, il quittera le pouvoir, comme le prévoit la Constitution. Le vrai problème, c'est que l'opposition, jusqu'à présent, s'est refusée à faire la même déclaration. Et qu'elle passe son temps, on le voit à travers ses médias, à annoncer la victoire de l'opposition. Donc là, évidemment, il y a une forte inquiétude. Cette inquiétude, elle est renforcée par le fait qu'un des leaders de cette opposition, Enrique Mendoza, a dit que l'opposition annoncerait les résultats du référendum le 15 à 15h. Évidemment, on peut imaginer ce qui peut se passer, c'est-à-dire que l'opposition à 15h va annoncer qu'elle a gagné, et puis si par hasard, ensuite, le Conseil national électoral donne la victoire à Chavez, l'opposition va hurler à la fraude et sans doute recréer ce climat de chaos permanent qu'elle a réussi à créer depuis que Chavez est au pouvoir.
L'opposition vénézuélienne est prête à tout, très radicalisée, mais qu'est-ce qu'elle reproche exactement à Hugo Chavez?
L'opposition lui reproche alors d'abord son style, on pourrait dire qu'il a un style un peu particulier, un peu direct, mais aussi il est évident qu'il est confronté à l'hostilité des États-Unis. On lui reproche en particulier sa politique pétrolière, puisqu'il a participé à la revitalisation de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ce qui ne plaît pas beaucoup à Washington. On lui reproche de refuser l'implantation de ce qu'on appelle la zone de libre-échange des Amériques, où sous l'hégémonie des États-Unis, on aurait eu un grand marché depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Et puis sur le plan intérieur, l'opposition lui reproche, on pourrait dire, une politique sociale dirigée essentiellement en direction des secteurs de la population les plus pauvres, qui représentent environ 70% de la population, à travers une réforme agraire, à travers, par exemple, les missions Robinson, qui est une mission d'alphabétisation. En fait, ce que lui reproche l'opposition, c'est d'utiliser l'argent du pétrole en direction des secteurs les plus défavorisés.
En ce qui concerne justement la manne pétrolière, vous avez évoqué tout à l'heure l'influence de Washington. Les États-Unis importent aussi beaucoup de pétrole vénézuélien.
Bien sûr, et c'est le dilemme pour Washington. Bon, Washington déteste Chavez, pour dire les choses très rapidement et très simplement. Et Washington a poussé à ce lockout qui a ruiné le pays, fin 2002, début 2003. Et en particulier, Washington finance l'opposition à travers un bras financier de l'Institut républicain. Donc ça, c'est une chose. En même temps, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de déstabiliser complètement le Venezuela, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, c'est son deuxième fournisseur de pétrole. Donc la marge de manœuvre est assez étroite pour le gouvernement américain, surtout dans une période où on est en pleine crise pétrolière.
Après une tentative de coup d'État, après la déstabilisation économique, finalement, ce référendum, c'est presque une bonne chose pour Hugo Chavez.
Lui, il considère comme une victoire. Hein. Il dit, nous avons réussi à leur faire respecter la Constitution. Avec, et je termine là-dessus, ce qu'on pourrait appeler une incongruité, parce que la Constitution ne dit rien sur le sujet, c'est-à-dire que si Chavez perd son référendum, il peut très bien, 15 jours après, se représenter aux élections présidentielles suivantes, qu'il gagnerait vraisemblablement dans la mesure où les leaders de l'opposition sont extrêmement divisés.